absolument essentiel.
Oui, absolument.
Absolument pas.
Absolument.
Essentiel. Une émission présentée par Thomas Lacombe.
Innombrables sont les scènes de comédie où un personnage croit parler et agir librement, où ce personnage conserve par conséquent l'essentiel de la vie, alors qu'envisagé d'un certain côté, il apparaît comme un simple jouet entre les mains d'un autre qui s'en amuse. Henri Bergson, le rire. J'espère que vous allez bien. Nous, on est en direct, en public, depuis le Théâtre Cantor pour cette 5e journée de la radio. Aujourd'hui, mes invités sont deux membres d'une belle association Made in Lyon, Vivre aux éclats. Elle existe depuis 1996 et elle a pour but de promouvoir la création artistique et l'intervention clownesque en milieu de soins et d'éducation spécialisée. L'objectif ? Favoriser le bien-être des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées, en collaboration avec les équipes de soins. Bref, aujourd'hui, je reçois deux clowns, la reine des clowns, la reine mère d'abord, puisque c'est elle qui a créé l'association Vivre aux éclats il y a 20 ans, Carole de Villers. Bonjour.
Bonjour.
Et bon anniversaire, du coup.
Merci.
On va se tutoyer pendant l'émission,
oui.
On a dit ça avant. Ton nom de clown, Carole, c'est quoi ?
C'est Zoé Lastic.
Tu préfères que je t'appelle Zoé ou Carole ?
Carole, là, Zoé Carole. N'est pas là aujourd'hui.
D'accord. Enfin, alors, si Zoé n'est pas là et Carole est ici, le deuxième clown que je reçois, il est un petit peu particulier, c'est un apprenti clown, on va dire, un drôle d'apprenti clown même, puisqu'il est stagiaire anthropologue. Bonjour, Andrea Magnolfi.
Bonjour.
Bon, c'est pareil, on se tutoie.
On se tutoie.
Bon. Pour nous accompagner, elle, je la tutoie depuis longtemps, j'ai évidemment choisi dans la bande de Transistor, celle qui ressemble le plus à un clown. La preuve, dans sa chronique, elle va citer Aristote, Chantraine, Lucrèce et la Bible. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Thomas.
Pendant un peu moins d'une demi-heure, on va parler de rire, comme thérapeutique, de nez rouge, de clownerie. Avec Marie-Ève, on parlera même de la beauté du rire. Bref, on parle de choses absolument essentielles. La trompette d'Ibrahim Malouf dans les enceintes du Théâtre Cantor. Et cette phrase du dramaturge français Jacques Deval qui disait « Une joie partagée est une double joie, un chagrin partagé est un demi-chagrin ». C'est ça que tu avais en tête, Carole, quand tu as décidé de fonder en 96 Vivre aux éclats ?
C'est vrai que ça parle des émotions et que les émotions, c'est vraiment notre matière de travail, le cœur de notre métier. Et... Effectivement, je pense que c'est essentiel de pouvoir les vivre pleinement et les partager.
Comment ça naît cette idée de se dire on va apporter de la joie, du rire en milieu hospitalier et on va faire ça en tant que clown ?
Alors pour moi, c'est né de deux expériences parallèles qui étaient ma formation de psychomotricienne que je suis venue faire à l'école de Lyon. Et en même temps, j'ai découvert en dehors le travail des ateliers de clown,
oui,
avec Edmond Morcilli. Et tout de suite, l'expérience pour moi du clown a été très riche et j'ai su que j'allais en faire toute ma vie.
Oui.
Parce que voilà, ce que je pouvais éprouver moi-même comme plaisir de m'exprimer avec mon corps, avec les émotions, la liberté, le non-jugement, le public, toute cette sensation d'exister... un maximum, me paraissait vraiment un outil idéal pour le travail de psychomotricité, pour accompagner l'autre vers un mieux-être psychocorporel, pour être dans son corps et dans sa tête en harmonie. Donc,
et du coup, aujourd'hui, t'es clown comédienne, c'est ton métier ?
Oui, oui.
Ouais.
Voilà, j'ai exercé le métier de psychomotricienne pendant un temps, et puis après j'ai fait le choix de développer plus le côté clown en travaillant donc dans l'association Vivre aux éclats et par ailleurs de créer des spectacles dans ma compagnie Zoé Lastic.
Ouais.
Donc je suis plus que clown, mais ça va, je m'ennuie pas.
Bah, on imagine. Et 20 ans plus tard, Andrea, qu'est-ce qui t'intéresse, toi, en tant qu'anthropologue, dans une association comme Vivre aux éclats ?
Alors, je pense, moi, à partir de mes études, la confrontation, l'interface entre les politiques de santé et les démarches artistiques qui s'invitent justement à l'hôpital, dans les maisons de retraite, dans les lieux un peu fermés où l'on soigne, où l'on pratique un soin technique. Oui. Donc ça m'a toujours intéressé. Et depuis l'année dernière, j'ai l'occasion d'accompagner Vivre aux éclats, justement, sur des projets de recherche action. Et je reprends donc, tu citais en ouverture, l'idée de partager les émotions. Et il est vrai que je trouve la figure du clown très riche, parce qu'elle ne se limite pas à aller faire un spectacle, à juste montrer quelque chose aux résidents, aux patients, mais bien à vivre une situation unique avec eux, à partager justement ces émotions, que ce soit la joie, la tristesse. Et dans l'observation, on se rend compte que c'est une démarche très riche de possibilités.
On peut soigner par le rire ?
Les études semblent montrer que oui, le rire a un impact positif que ce soit sur la personne, sur le service. Je ne sais pas si on peut soigner par le rire. En tout cas, Vivre aux éclats ne se revendique pas comme une association de clowns thérapeutes, mais bien d'artistes professionnels qui interviennent en milieu de soins. Je pense en tout cas que le rire, la joie sont nécessaires dans l'idée d'une prise en charge et une prise en soin globale des personnes, dans l'idée d'un mieux-être.
Tu dirais quoi, toi, Carole ? On soigne par le rire ? Toi qui es clown ?
Je pense que le rire a des effets thérapeutiques. Voilà, malgré nous, presque, puisque ouais. Nous, l'objectif n'est pas thérapeutique, mais il est de permettre de continuer à chacun, dans les milieux de soins, continuer à vivre aux éclats, justement. Et vivre aux éclats, pour nous, ça va être continuer à exister pleinement dans toutes ses dimensions, avec toutes ses potentialités, du point de vue corporel, psychique, de l'imaginaire, de la fantaisie, de l'émotion, justement. Et dans des lieux comme l'hôpital, où, justement, l'émotion, on a plutôt l'impression d'un couvercle qui est mis dessus, avec cette expression « hôpital silence », on ne va pas facilement, comme à l'extérieur, se mettre à chanter, à danser, ce que font partout les enfants sans problème. Mais là,
oui, il y a un côté aseptisé, assez neutre, en fait.
Voilà, il y a effectivement ce côté où justement... elles sont plutôt difficiles, les émotions qui sont ressenties là, et du coup, on n'a pas trop envie de les voir. Et le clown va permettre justement de venir faire un petit peu exploser ça comme une soupape de sécurité, pour pas que ça explose de l'intérieur, mais que ça puisse respirer, et comme l'effet d'un carnaval. Donc le clown, parce que moi, ça m'a fait cette impression la première fois que je suis allée à l'hôpital avec un nez rouge.
Tu t'en rappelles de cette première fois ?
Oui.
Ouais, c'est gravé.
C'est vraiment magique, parce que on a une liberté incroyable. C'est un laisser-passer pour jouer. Et se laisser passer permet aussi à chacun dans la rencontre avec nous de disposer de cette liberté, et de lui aussi pouvoir avoir accès à la folie, à l'expression, au jeu, à la communication qui n'est pas quotidienne.
Alors tu parlais de ta première fois en tant que clown quand tu rentres dans une chambre d'hôpital. Je sais que c'est difficile, mais c'est quoi un de tes très très bons souvenirs en tant que clown dans un milieu hospitalier ?
Toutes les journées sont pleines de magnifiques moments.
Ouais.
Comme on est le 1er avril, j'ai repensé à une journée de 1er avril qui était la première année où on intervenait à la Fougeraie. C'est un établissement d'enfants polyhandicapés à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Un établissement où les enfants ne parlent pas, ne marchent pas, où les soins sont plutôt de confort, où les soignants avaient cette demande aussi de pouvoir amener un petit peu de folie et de respiration. Et ils nous ont fait eux-mêmes la surprise un 1er avril quand on est arrivé pour jouer. Tous les soignants, le personnel administratif, la direction, le personnel qui fait le ménage, tout le monde était déguisé. Et donc c'est eux qui nous ont surpris cette fois-là, pour le 1er avril. Et c'était formidable parce que du coup ça leur permettait, ça avait catalysé chez eux cette envie aussi de folie et de surprise. Et c'est un beau cadeau pour nous.
Alors tu parlais d'une intervention dans un centre pour enfants polyhandicapés. Vous intervenez à l'hôpital auprès des enfants, auprès des personnes âgées. Et puis vous intervenez aussi en EHPAD, ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, donc, ou de toute autre maladie dégénérative apparentée. Oui. Ma grand-mère, elle a été malade d'Alzheimer. Et vers la fin de sa vie, elle parlait presque plus. Elle avait perdu des facultés motrices, comme la déglutition, par exemple. Elle reconnaissait plus certains sons, elle reconnaissait plus certaines personnes. Et je me rappelle très bien un samedi où je suis allé la voir, comme tous les samedis. Il y avait une activité. C'était pas des clowns, c'est une activité musicale. Et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. Elle avait dans les yeux, elle était plus la même. Elle était redevenue celle qu'elle était. Elle était plus malade. Tu as conscience qu'il y a quelque chose de magique qui se passe ?
C'est quelque chose. La musique, c'est un élément qu'on utilise énormément parce que sans langage verbal, ça va aller toucher chacun. Donc aussi les enfants qui parlent pas, les bébés, les personnes, enfin tout le monde, mais même ceux qui parlent. Mais on va vibrer ensemble avec la musique. On va être au même diapason. On va pouvoir communiquer une émotion. Ça peut être bercé, ça peut être au contraire amener une dynamique et du vivant. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour l'être ensemble et les émotions. Et aussi chez les personnes âgées, ça peut avoir une autre fonction quand on utilise par exemple des chansons qu'ils ont connues autrefois. Donc là, ça va pouvoir aussi raviver des souvenirs. Et puis voilà, une personne âgée, le temps d'une valse, elle va avoir 20 ans parce qu'elle va le revivre
à travers l'émotion. Le rythme qui est aussi une forme de langage. Andrea, toi comme anthropologue, comment tu peux expliquer le fait que si par exemple Carole, elle entrait dans la même pièce d'un hôpital mais sans sa perruque, sans son nez rouge, ben peut-être qu'il n'y aurait pas le même effet. Comment t'expliques ça ? On parlait de magie tout à l'heure.
On parlait de magie. C'est un terme intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs choses à soulever. De rien. Tout d'abord, c'est vrai que la figure du clown est assez en décalage avec ce à quoi on s'attend dans un milieu de soins. Donc la perruque, le nez rouge, les couleurs font partie d'un costume qui attire l'attention en fait, des résidents, des patients. On parlait de magie. L'action du clown est difficilement quantifiable. On ne peut pas calculer à l'avance ce qui va se passer. Chaque situation créée est vraiment unique et on ne peut la répéter. Donc d'une certaine manière, on est moins dans justement on parlait de soins techniques, on est moins dans cette démarche-ci, mais plutôt dans une approche individuelle ou de groupe, mais qui vise à aller toucher la personne en tant que telle.
C'est pas un tour, on n'est pas sûr que ça va fonctionner, c'est ça que tu dis.
On n'est pas sûr que ça va fonctionner, et puis même on n'a pas forcément envie que ça marche. L'idée, c'est vraiment de construire quelque chose avec les personnes.
Tu veux dire que le risque, c'est aussi dans le processus, ça fait partie.
Oui, ça fait partie de l'improvisation. Il y a cette idée de créer quelque chose d'unique avec la personne. Donc magie aussi dans le fait que le clown, avec son regard un peu décalé, sa manière nouvelle de voir les choses, permet de redécouvrir l'environnement, les personnes sous un autre jour. Et donc tu donnais un exemple personnel avec ta grand-mère. Et moi, de ce que j'ai pu voir aussi avec des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple, c'est que finalement, on leur projette dessus une étiquette, une image, qui est celle de personnes qui ne parlent plus, qui ne marchent plus, qui finalement sont un peu des vivants en sursis. Et en réalité, on se rend compte qu'il suffit parfois d'aller les chercher. Ça ne marche pas toujours, mais de temps en temps, il y a des réactions très surprenantes. Et on redécouvre cette personne, on se dit non, là, il y a encore quelque chose à faire. Et cette personne mérite encore qu'on s'intéresse à elle.
Tu parlais de surprise, Andrea. Toi, tu la mesures, Carole, cette surprise et le risque aussi qu'il y a parfois de se dire peut-être que ça ne va pas marcher aujourd'hui.
Ah oui, c'est toujours c'est l'improvisation. C'est toujours, on se jette à l'eau. Je voudrais dire que c'est pas le fait d'être costumé ou d'avoir un nez rouge qui va faire non plus la magie de ce qui se passe. Ça va plutôt nous permettre, nous autoriser à être dans l'état clownesque. Et c'est l'état qui, lui, est peut-être magique. L'état, c'est que moi, je vais me transformer entre Carole et Zoé et je vais plus être la même. Ou alors, je vais être un mois beaucoup plus libre. Et c'est cet état auquel la personne en face va pouvoir se connecter, avec lequel on va pouvoir aller la toucher, la personne en profondeur, avec ce qu'elle est vraiment au fond, et notamment avec sa puissance, sa joie de vivre, son émerveillement, son âme d'enfant, peu importe l'âge, et la partie saine d'elle-même, la partie en bonne santé, et qui va aussi lui permettre de, avec cette partie saine, je pense, de vivre ce qu'elle a à vivre, de peut-être mieux le vivre.
On parle de transformation par le rire, de réenchantement, de mieux vivre. Il est peut-être magique ce nez rouge, ou peut-être pas. C'est surtout très beau ce qui se passe dans un rire et cette beauté du rire. C'est ce qui a intrigué Marie-Ève. Jingle.
Des hommes rient aux éclats. Ce rire paraît étrange, risible, presque laid, et suscite donc notre propre rire. On rejoint Aristote. Le risible est une partie du laid. En prenant l'exemple du masque comique laid et difforme, Aristote explique qu'il est sans douleur et que donc sa laideur fait rire. Comment parler alors de la beauté du rire si son objet est de l'ordre du laid ? La beauté du rire se cache dans l'apparence. Le rire aux éclats prend tout son sens dans le visuel et non dans le sonore, même si c'est beaucoup moins radiophonique.
C'est vrai.
Le rire aux éclats, c'est en effet le rire qui brille, qui fait briller le regard et qui illumine le visage. Chantraine, le célèbre grammairien, considère que le verbe qui en grec veut dire rire, gelao, et qui signifie d'abord briller, resplendir, appartient au même groupe que le terme galénais, qui signifie le calme lumineux, le calme de la mer ensoleillée. Et même, comme le dit l'hymne homérique à Déméter, tout le ciel et toute la terre resplendissent de parfums. Il y a synesthésie, le parfum des fleurs devient lumière, et la terre en est riante d'éclat. C'est pour Vénus, la mère nourricière, déesse de la beauté et de la fertilité de la nature, que, je cite, « la terre industrieuse fait jaillir les fleurs suaves, que rient les eaux de la mer, et que brille le ciel apaisé d'une lumière étale », dans le célèbre traité latin de Lucrèce sur la nature des choses. Rire, luminosité, beauté de la nature et de ses créatures se confondent en un seul et même éblouissement.
Ça, c'est Marie-Ève bébé.
Presque. Le rire, en tout cas, je cite à nouveau, est la faiblesse, la corruption, la fadeur de notre chair. C'est la musette pour le paysan, la licence pour l'ivrogne. Ainsi, le rire reste vile chose, défense pour les simples, mystère déconsacré pour la plèbe. Ce ne sont pas mes mots, bien sûr, mais les mots de Georges de Burgos dans la scène finale du roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Le rire est contrôlé par l'Église médiévale parce que la gaieté ici populaire est subversion, menace pour le sacré. Et pourtant, dans la Bible même se trouve un magnifique exemple de gaieté en apparence déplacée, mais riche de profondeur et de beauté. Je veux parler de l'épisode de la Genèse où trois mystérieux voyageurs viennent annoncer à Abraham, sous le chêne de Mamré, qu'il aura un fils dans son grand âge. Sarah, sa femme déjà âgée de plus de 90 ans, écoute derrière le rideau de la tente et se met à rire en se disant « Tout usée comme je suis, pourrais-je encore jouir ? Et mon maître est si vieux ?» Le Seigneur dit à Abraham « Pourquoi ce rire de Sarah et cette question « Pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille ? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ?» Sarah nia en disant « Je n'ai pas ri !» car elle avait peur. « Si, reprit-il, tu as bel et bien ri !» Le rire de Sarah pourrait passer pour dangereux, moquerie subversive et même incrédulité vis-à-vis de Dieu. Elle en a elle-même conscience. Mais lorsqu'elle accouche d'un garçon, elle l'appelle Isaac, le rire, en souvenir de ce moment où, déconcertée, elle a ri non pour se moquer, mais pour acquiescer inconsciemment à l'humour divin ou grâce divine face aux lois de la nature totalement défiées dans cet épisode. Le rire moqueur de Sarah, c'est l'émerveillement face à l'inespéré. C'est un alléluia, une jubilation en réponse aux merveilles imprévues qui se produisent dans la vie.
Today's meeting with President Bill Clinton was going to be a disaster.
Так вот, не первый раз я вам говорю, что вы провалились.
Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster.
États-Unis, 23 octobre 1995, une scène mythique entre les représentants des deux grandes puissances anciennement en conflit dans la guerre froide. Boris Yeltsin se moque des journalistes en les traitant de désastres et Bill Clinton part dans un long fou rire en tapant sur l'épaule de son homologue russe pour mieux souligner sa bonne blague. Tout à coup, l'on voit donc ces deux grands personnages oublier leurs problèmes et être rendus à leur humanité par le rire. Le rire est le propre de l'homme, dit Rabelais, c'est aussi parce que le rire nous rend à notre humanité. La beauté du rire est alors avant-goût de la beauté du paradis, céleste ou terrestre. Paradis céleste lorsque Béatrice se met à rire au moment de conduire le poète au plus haut degré de la contemplation dans la Divine Comédie de Dante, et lorsque la Sainte Sœur d'Issiole, d'une austérité exemplaire durant toute sa vie, éclate de rire au moment de mourir dans les histoires de Grégoire de Tours. Paradis terrestre lorsque, vous allez l'entendre, le fou rire se propage sans raison dans une rame de métro, unissant des inconnus dans un même état de grâce. La grâce, qui est aussi muse, nommée Thalie, c'est le rire dans toute sa beauté.
Merci Marie-Ève. Alors on continue après cette très belle chronique de parler avec nos invités de l'association Vivre aux éclats, parce qu'elle contribue à la beauté du rire dont tu parlais à l'instant, j'en suis sûr. Alors comment je fais, Andrea, je me tourne vers toi, parce que je suis un auditeur de Transistor et je me dis, bah mince, elle est quand même vachement chouette cette association. Alors comment je peux faire pour vous aider concrètement?
Alors, tout d'abord, certainement par un don, et notamment par rapport à ça, il y a le site achèteunclown.com.
Oui.
Qui permet, en fonction des moyens de chacun, donc de parrainer, on va dire, un clown, et de lui permettre de jouer pendant une heure, un jour, une semaine, un mois,
selon
une année,
les moyens, ouais.
En fonction des moyens, donc à l'hôpital auprès des personnes âgées et dépendantes ou des enfants.
Achèteunclown.com.
Exactement. Sinon, pas besoin de passer à la banque. On a toujours besoin de bénévoles,
ouais,
qui ont envie de partager ça avec nous. Et notamment, au hasard, dimanche 17 avril, mm-hmm, il y a un match de rugby. Le Loup de Lyon est un de nos partenaires.
Eh oui, le Loup.
Et à l'occasion de ce match, nous allons organiser une vente de nez rouge. Donc qui servira à financer en partie certains de nos projets. Donc pour ceux qui sont intéressés, il suffit de nous appeler à l'association,
ouais,
et, rapidement, début de semaine prochaine, si possible.
On
et voilà, on a toujours besoin de bénévoles.
Est-ce que je peux devenir clown?
Ah, je ne sais pas si c'est à moi qu'il faut poser cette question.
Carole, comment on fait pour devenir clown?
Eh bien, il faut s'y mettre. Il y a des stages, des écoles de théâtre, de clown. Voilà, c'est une formation qui est un petit peu au long cours, je dirais, parce que c'est pas
ça s'improvise stage. Pas.
Ça s'improvise pas, mais c'est un jeu d'acteur. Donc,
bien sûr.
Voilà, c'est une page particulière du jeu d'acteur, donc ça se travaille. Et puis,
notez que je m'en doutais un petit peu quand
c'est,
même.
c'est un chemin, parce que notre clown, il grandit petit à petit avec nous.
Deux questions pour terminer. Leur formulation est simple, la réponse peut-être moins. Qu'est-ce qui est absolument essentiel quand on est clown et qu'on veut faire rire, Carole?
Waouh.
Ouais. Ça fait cet effet-là parfois. Ouais. C'est joli ce moment de suspension à la radio.
Bah, peut-être accepter que ça marche pas. Parce que quand on veut faire, justement, c'est pas ça le clown, c'est pas le faire, c'est l'être. Donc, par exemple, accéder à ce je ne sais pas, et c'est peut-être avec ça que ça marcherait.
Une autre question qui va peut-être te laisser sans voix, Carole. Qu'est-ce qui est absolument essentiel dans la vie? Bon, je te laisse réfléchir. Andrea, qu'est-ce qui est absolument essentiel dans la vie? Bon, Marie-Ève.
Suspension. Le partage, peut-être, comme on le disait avant.
Ouais.
Le respect envers l'autre, envers ce qu'il est, son humanité, et aussi se laisser surprendre, ne pas projeter quelque chose sur les personnes, et être toujours ouvert à la surprise, et toujours prêt à accepter ce qui se passe.
Et toi, Carole, tu dirais quoi en un mot?
La rencontre.
C'était une belle rencontre en tous les cas aujourd'hui. Merci à vous deux.
Merci, merci à vous.
Pour en savoir plus ou faire un don, un site, vivre aux éclats tout attaché et au pluriel .fr. Petite annonce avant de refermer cette émission, le vendredi 13 mai de 17h à 20h à l'ENS en salle R20, dans le cadre du séminaire organisé par Julie Henry, vous pourrez assister à une séance intitulée « Lecture clownesque et philosophique » en présence de Jaco, présenté comme un clown poète et un artisan de l'âme. Petite histoire rapide de 1er avril avant de vous remercier pour votre écoute fidèle et d'embrasser surtout Marie-Ève d'avoir accepté une fois de plus de rechausser son micro et de le partager avec moi. Petite histoire de 1er avril au musée Picasso à Paris. Il y a dans une vitrine une grosse ratiche sur un fond rose et cette mention « J'ai une dent pour toi ». Il s'agit d'une carte de 1er avril envoyée en 1929 par Salvador Dali à Pablo Picasso. Et cette constatation, deux génies de la peinture ne font pas des génies de l'humour. Je vous laisse méditer sur cette histoire et son sens profond, absolument essentiel. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Ce sera le 17e. Mais d'ici là, surtout, n'oubliez pas l'essentiel.
Merci Thomas et merci à Marie-Ève et surtout à vos invités pour ce très beau numéro d'Absolument Essentiel. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en train de faire de la radio, qui plus est ici en Cantor. Alors maintenant, on arrive dans la dernière demi-heure de cette journée et c'est une demi-heure un peu spéciale. Notre panel d'experts vient de s'installer en plateau, de véritables experts sur tous les sujets possibles et imaginables, et nous répondons à vos questions. C'est l'heure de la libre antenne.